Vous êtes bien à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 13h en temps universel, une heure de plus ici à Paris. L'heure de l'information avec vous, Margot Ratézic, bonjour.
Bonjour Simon, bonjour à tous. 6 otages du Hamas libérés ce samedi en plusieurs temps et sur plusieurs sites. Nous retrouverons notre correspondant à Jérusalem pour faire le point sur le processus d'échange d'otages et de prisonniers. Dans ce journal, nous nous intéresserons également aux minerais stratégiques ukrainiens. Volodymyr Zelensky a fait savoir qu'il n'était pas prêt à signer un accord à ce sujet avec les États-Unis. Nous irons aussi au Salon de l'agriculture à Paris. Ambiance, vous le verrez, plus apaisée que l'année dernière après les huées et les violences qui avaient marqué la dernière édition. Et puis en Corse, des collectifs anti-mafia appellent à manifester après la mort d'une jeune femme de 19 ans il y a une semaine. Elle aurait été prise pour cible par erreur. 6 otages du Hamas ont été libérés ce samedi dans la bande de Gaza. Des libérations plus complexes que les semaines précédentes, car elles ont eu lieu en 3 temps et en 3 lieux. Le dernier otage libéré, Hicham El-Sayed, est un bédouin de 36 ans qui souffre de troubles psychiques, Michel Paul.
Oui, il vient d'être libéré dans la ville de Gaza après plus de 10 ans de captivité et après avoir traversé la frontière donc de son plein gré. Sa libération, contrairement à celle des autres otages, s'est faite sans la mise en scène organisée habituellement par les hommes du Hamas. En tout, donc, 6 Israéliens sont libérés aujourd'hui, 3 d'entre eux capturés lors du festival de musique Nova le 7 octobre 2023, 2 binationaux, israélo-argentins et israélo-autrichiens, et également Vera Mengistu, un juif éthiopien, lui aussi en mauvaise santé mentale. Il s'était rendu spontanément il y a 11 ans de cela à Gaza. En Cisjordanie, 602 détenus de sécurité palestiniens doivent être eux aussi libérés dans le cadre de ce 7e échange. Le dernier est le plus important de cette première phase de l'accord de cessez-le-feu. Parmi eux, plus de 100 condamnés à des peines de prison à perpétuité. Jeudi prochain, 4 otages qui ne sont plus en vie seront restitués à Israël. Et d'après le décompte, parmi eux devrait se trouver le franco-israélien Ohad Yahalomi.
Michel Paul en direct de Jérusalem pour RFI. Et on a appris que le nouveau corps rendu vendredi par le Hamas est bien celui de l'otage Shiri Bibas. La famille confirme la restitution de la dépouille de cette mère de famille de 33 ans avait donné lieu à une confusion. Le Hamas évoquait hier une possible erreur sur le corps initialement remis à ses proches. Les États-Unis proposent à l'ONU une résolution pour, je cite, une fin rapide du conflit russo-ukrainien. Un projet qui ne fait pas mention du respect de l'intégrité territoriale ukrainienne. Et le président ukrainien a quant à lui fait savoir qu'il n'était pas prêt à signer un accord sur les minerais avec les États-Unis, du moins pas dans sa forme actuelle, selon une source proche du dossier. Ces minerais stratégiques sont au cœur des négociations avec Donald Trump. L'un de ses conseillers a même déclaré que l'Ukraine devrait céder sur cette question à très court terme. Bonjour Anne Verdaguer.
Bonjour.
Une première version d'un accord avait été rejetée par Volodymyr Zelensky qui avait souligné que son pays n'était pas à vendre.
Oui, l'accord original avait été présenté début février par Donald Trump et portait sur un accès pour les Américains à hauteur de 50% aux minerais stratégiques du pays, proposition vertement rejetée par le président ukrainien qui réclamait notamment des garanties de sécurité pour l'Ukraine afin d'empêcher toute nouvelle invasion russe après un éventuel accord de paix. Depuis, les tensions se sont fortement accrue, Donald Trump accusant son homologue ukrainien d'être un dictateur tout en écartant l'Ukraine des discussions et en amorçant un brusque rapprochement avec la Russie. Aujourd'hui, cette question de l'accès aux minerais situés dans le sol ukrainien est un levier essentiel dans les prémices de ces négociations de paix. Un accord pourrait rapporter jusqu'à 500 milliards de dollars aux États-Unis. Selon la Maison-Blanche, l'Ukraine possède d'importantes ressources en lithium et en titane qui sont essentielles pour les technologies de pointe, notamment l'aérospatiale et les véhicules électriques. Les États-Unis en ont cruellement besoin face à un rival chinois qui contrôle aujourd'hui la très grande majorité de la production de terres rares. L'administration Trump estime qu'un accès à ces ressources permettrait aussi de compenser en partie les États-Unis pour l'aide militaire et économique déjà fournie à l'Ukraine.
Anne Verdaguer du service économie de RFI. On parlait des États-Unis. Le président français est attendu justement à Washington ce lundi. Emmanuel Macron entend rappeler à son homologue Donald Trump qu'entre notre allié. Je cite, on ne peut pas faire souffrir l'autre avec des tarifs douaniers. Déclaration faite au Salon de l'agriculture à Paris, où Emmanuel Macron a tenté de rassurer sur la concurrence des produits étrangers. En France, la profession craint notamment ceux d'Amérique du Sud. Après l'accord passé entre l'UE et le Mercosur, le président a assuré continuer de chercher une minorité de blocage à ce sujet. Il a rencontré les principaux syndicats agricoles dans un climat plus apaisé que les huées et violences de l'an dernier. Amélie Beaucourt, vous êtes sur place et on peut donc dire que la colère des agriculteurs s'est légèrement dissipée.
Oui, tout à fait Margot. On sent que la loi d'orientation agricole qui a été adoptée juste avant ce salon a répondu à une partie de la grogne des agriculteurs, mais le compte n'y est pas totalement et ça se voit sur les visages des exposants. C'est ce que m'expliquait cet éleveur de vaches laitières venu des Hautes-Pyrénées dans le sud de la France.
L'ambiance est... Voilà, elle est ce qu'elle est, c'est pas non plus l'euphorie, mais bon, c'est l'année dernière ça a quand même un peu dégénéré, c'était pas très... Ça n'a pas montré une bonne image. Tous les gens qui passent ou qui savent discuter nous disent qu'ils nous soutiennent, donc ça fait toujours plaisir à entendre.
Donc les visiteurs, ce sont eux qui mettent un peu de baume au cœur aux agriculteurs et ils sont assez nombreux là où je me trouve, dans le pavillon numéro 1. C'est celui où on croise les vaches, les moutons, les cochons. C'est ici qu'on retrouve aussi la star du salon. Vous savez que chaque année, une vache est choisie pour être l'égérie de l'événement. Cette année, elle s'appelle Houpette et je vais laisser son papa, Alexandre Humeau, vous la présenter.
C'est une vache de race limousine qui a 6 ans. C'est une vache donc de race à viande. Houpette pèse un peu plus d'une tonne. Houpette, donc, je l'ai vu naître, je l'ai vu grandir, je l'ai dressé pour l'habituer à aller sur les concours et tout. Elle est accompagnée de son veau, qui s'appelle Vienne, qui est né le 25 décembre. Le matin de Noël, comme m'ont dit mes enfants, c'était ton cadeau. Voilà.
À noter quand même, Margot, une assez forte présence policière. On sent que côté organisation, on ne veut surtout pas des débordements de l'année dernière.
Merci Amélie Beaucourt, en direct du Salon de l'agriculture à Paris. Et pour vivre les temps forts de cet événement en images, rendez-vous sur le site et l'application de RFI, c'est jusqu'au 2 mars. En France, troisième meurtre perpétré en Corse depuis le début de l'année. Samedi dernier, une étudiante de 19 ans a été tuée par balle alors qu'elle circulait seule en voiture. La jeune fille aurait été prise pour cible par erreur sur fond de règlement de compte lié à la mafia. Un crime qui s'ajoute à une longue liste depuis des années. Alors en Corse, des collectifs anti-mafia appellent à manifester ce samedi à Ajaccio. Aram Beng.
Les buts de la manifestation, à l'appel du collectif Non à la mafia, Oui à la vie et du collectif Massimo Soussimi, est d'alerter les autorités sur le climat mafieux qui règne en Corse. Attente et mot d'ordre des associations anti-mafia avec Jean-Toussaint Placenzotti, porte-parole des deux collectifs.
C'est assassin, virgule, mafieux, virgule, dehors. Voilà. Tout le monde se reconnaît, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors qu'est-ce qu'on attend? On attend d'abord de la part de l'État qu'elle fasse le nécessaire pour mettre hors d'état de nuire les assassins, leurs complices, leurs soutiens, leurs prête-noms. Et de l'autre côté, la collectivité de Corse, en tant qu'élue, ont aussi un pouvoir de contrôle des marchés publics qu'elle ne fait que très imparfaitement. Donc les deux instances ont des responsabilités et on attend d'elles qu'elles assument leur pouvoir et leurs responsabilités.
Les collectifs anti-mafia espèrent un sursaut de la société face aux crimes organisés et réclament des mesures concrètes aux autorités pour lutter contre la mafia corse.
Aram Beng. Manuel Valls, sous les huées en Nouvelle-Calédonie, le ministre français des Outre-mer a été chahuté par des loyalistes. Ce sont ceux qui s'opposent à l'indépendance de l'archipel. Manuel Valls doit rester une semaine sur place pour apaiser par le dialogue, selon ses mots, la Calédonie où le climat est toujours très tendu après les violentes émeutes l'année dernière. Gisèle Pélicot, icône féministe à l'échelle mondiale. Elle fait partie des femmes de l'année 2025, distinguée par le magazine américain Time. Le procès des viols de Mazan est devenu emblématique des questions de violences sexistes et sexuelles en France comme à l'étranger. Et puis en Allemagne, J-1 avant les élections législatives anticipées. Ce dimanche, ce sont 60 millions d'électeurs qui sont appelés aux urnes pour le renouvellement des 630 sièges du Bundestag. Victoire attendue du chrétien-démocrate Friedrich Merz. Face à lui, Olaf Scholz, le chancelier sortant. RFI, il est bientôt 14h10 à Paris, 13h10, temps universel. C'est la fin de ce journal, mais restez à l'écoute. Tout de suite, c'est Un jour au village.